décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 10, salut Manu.
Salut Luc.
Alors, on n'est que tous les deux ce soir.
Eh oui, en tête à tête.
Alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans la revue de presse de la semaine dernière?
5 articles, tranquillou.
Humanité.fr, dégoogliser Internet, oui, mais en agissant autrement, un article de Pierre Duquesne.
Eh bien, ça parle de services alternatifs, et il y a une organisation, le PC français, qui s'intéresse à tout cela. Ils ont invité des gens de Framasoft.
Le personnel computer, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, il y a des gens qui s'intéressent au logiciel libre dans le domaine politique.
ZDNet France, Debian et Kali Linux débarquent sur le Windows Store, un article de Louis Adam.
Alors, c'est quand même un peu une bombe. Franchement, le Windows Store, là où il y a plein de logiciels propriétaires, notamment de Microsoft, eh bien maintenant, ils mettent Debian, quoi, la distribution phare du logiciel libre.
Mais pour la faire tourner à l'intérieur de Windows 10.
Alors voilà, c'est une idée, c'est de le faire tourner. Et oui, mais en même temps, quand même...
C'est quand même sale. Hein.
Alors oui, mais ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Mettre une Debian dans Windows, ça fait kiffer.
Bref. Numérama vers un coup de pouce de l'éducation nationale en faveur des logiciels libres éducatifs, point d'interrogation. Un article de Julien Lausson.
Eh bien, ça poursuit sur les questions au gouvernement. Là, c'est une question pour l'éducation nationale, voir ce qu'ils peuvent faire un petit peu pour aller dans le bon sens, dans le sens du logiciel libre. Il y a l'April qui est un peu derrière, qui pousse.
Après l'accord lamentable avec Microsoft, tout
oui,
ça, donc ça serait bien que ça reparte dans le sens. L'informaticien, joyeux anniversaire, l'open source. Un article de Bertrand Garré.
On continue sur le fait qu'il y a eu les 20 ans de l'open source il y a peu de temps, le 3 février. Et donc là, c'est un article un peu plus global.
Ça fait un mois et demi déjà.
Oui, ça va. Oui. Mais les gens qui écrivent les articles, ils ont dû tomber sur la news que maintenant. Et en tout cas, là, c'est assez intéressant. Ça fait un peu le tour de ce que c'est que l'open source. Et ils parlent du côté pragmatique de l'évolution, justement, le libre et l'open source. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez jeter un œil, c'est sur l'informaticien.
Mini Machine, comment le prix des licences de Windows 10 modèle le marché PC? Un article de Pierre Lecourt.
Alors là, moi, ça m'a mis sur ma chaise.
Oui.
Parce que ça parle des prix de Windows et de la manière dont ça a organisé la marchandisation des PC, et notamment des mini-PC. Pas si tu te rappelles les Asus EE1, oui. Les tout petits PC qui valaient vraiment pas cher, et ils étaient tellement pas chers qu'en fait, ils ne pouvaient pas mettre Microsoft dessus, mais Windows, parce que la licence Windows aurait boosté le prix. Et donc, ils avaient mis à l'époque des noyaux Linux et des logiciels libres. Microsoft s'y était intéressé, ils avaient diminué le prix de leur licence pour s'accaparer ce marché, et ils ont détruit le marché d'origine. Mais en fait, maintenant, ils continuent à structurer le marché en faisant des licences à différents prix. Donc, allez jeter un œil, minimachine.net.
Ouais, on sait que c'est notamment un des mécanismes qui fait que Microsoft garde la main sur tout le marché, c'est que dès lors qu'un constructeur a la velléité d'avoir une politique qui ne plaît pas à Microsoft, il se fait punir.
Et de bypasser Microsoft.
Voilà, dans ce cas-là, Microsoft, qui reste en position dominante, augmente le prix des licences. Du coup, constructeur...
Des licences de ce constructeur-là, en tout cas, pas des autres.
Pour
c'est
le
ça
constructeur, bien sûr, oui, ouais. Puisqu'il fait les prix à la tête du client. Et du coup, le constructeur n'est plus compétitif sur la grosse masse des PC Windows. Et c'est comme ça que Microsoft fait la pluie et le beau temps sur le marché.
Donc c'est assez affreux. Allez jeter un œil parce que ça a plein de conséquences sur la vie de tous les jours, en fait, sur les ordinateurs de tout le monde. C'est assez intéressant. Moi, ça m'a ouvert les yeux.
Donc c'est quoi le sujet de la semaine, Manu?
On va essayer de parler d'un sujet qu'on avait déjà abordé, ce que c'est que d'être informaticien.
Effectivement, on en avait parlé plutôt du point de vue organisation, travail, côté un peu social. Et là, on veut essayer de parler un petit peu de ce que ça fait à l'intérieur que d'être informaticien.
Donc, du point de vue personnel. Alors, ouais. Toi, est-ce que tu es informaticien?
Alors, moi, je dis que je ne suis pas informaticien.
Pourtant, je te vois assez régulièrement, tu es tout le temps sur ton ordinateur.
Alors, je fais plein de choses sur mon ordinateur à la maison. Je travaille chez un éditeur informatique et je suis tout le temps sur l'ordinateur. Mais pour moi, je ne suis pas informaticien parce que j'utilise des logiciels. Surtout à la maison, j'utilise des logiciels pour faire toute une série de choses. Mais je ne crée pas de l'informatique. Ce serait plutôt au boulot où, même si je ne code pas, j'ai une influence sur ce que le logiciel va devenir, celui sur lequel je bosse. Donc du coup, là, oui, je serais un petit peu informaticien, mais mon boulot, au final, c'est plutôt d'être entre les utilisateurs et les vrais informaticiens qui font le code.
D'accord. Et quand tu es à la maison, alors, tu fais quoi sur ton ordinateur? Parce que tu y es tout le temps.
Alors, je ne perds absolument pas de temps à jouer, jamais. Je monte, par exemple, des fichiers son, un podcast. J'aime bien travailler avec des logiciels de dessin industriel. Je suis dans un Fab Lab et que j'adore bricoler, etc.
Tu fais de la 3D avec Blender, hein?
Alors, Blender, c'est encore différent. J'aime bien toucher à plein de petits logiciels. J'aime bien découvrir ces choses-là, mais à chaque fois, pour moi, c'est un outil pour faire autre chose. Quand on aime faire les choses, choses, eh ben, on aime s'intéresser à ces outils. Mais dans ce cadre-là, je ne fais pas de l'informatique. Pour moi, j'en crée pas.
En utilisant l'informatique, mais tu ne crées pas de l'informatique.
Tout à fait. Alors que toi, quand on voit Manu qui travaille ou Manu qui est sur son temps libre, la différence n'est pas flagrante puisque tu as un ordinateur sur les genoux.
Je suis installé sur un canapé, hein, ce qui est peut-être assez original. Je n'ai pas un bureau. Moi, je préfère travailler en tailleur. Effectivement, mon kiff, c'est d'être tout le temps sur mon ordinateur. Je joue assez peu. Je regarde des matchs de e-sport, mais je joue assez peu. Et effectivement, je vais programmer sur d'autres projets que ceux pour lesquels je suis payé. Je
fais l'agenda du livre, par exemple.
Ouais. Exactement. Je fais l'agenda du livre. Je maintiens le site de la librairie de Magali. Je fais le site de mon entreprise. J'ai pu contribuer à pas mal de choses à l'April, au Romeleleu, Rencontre mondiale du logiciel libre. Et en fait, c'est assez mon kiff, quoi.
Mais alors, du coup, tu es une sorte de pervers qui code pour le travail. Et puis, une fois que tu as fini de coder pour le travail, tu continues à coder pour des projets libres.
Exactement. Mais il faut croire que c'est mon plaisir. Et honnêtement, alors j'en parlais avec des collègues, je trouve que c'est important d'essayer de savoir qui on est. Et quelque part, j'arrive à faire ce que je faisais quand j'étais petit, je m'amuse en jouant. Et je joue en faisant de l'informatique à construire des objets, tout comme je le faisais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, mon kiff, c'était de jouer au Lego. Et en fait, aujourd'hui, quand je fais de l'informatique, je suis en train de continuer à construire des choses. Je construis différemment, avec d'autres outils, avec d'autres finalités, mais je ne fais que continuer à faire ce que je faisais étant jeune, des Lego.
Alors, c'est un truc qu'on apprend en fréquentant les informaticiens, c'est que quand ils vont concevoir un logiciel, il y a un premier truc, c'est ce qu'on appelle le modèle de données, c'est comment ils vont organiser les différentes briques, les différents éléments. Moi, j'aime bien prendre le parallèle de la bibliothèque. C'est-à-dire que si vous avez une bibliothèque, vous allez dans votre bibliothèque municipale, elle est organisée d'une certaine façon. Si vous voulez avoir des bouquins sur une thématique, c'est facile. Si vous voulez l'avoir par auteur, ça marche. Par date d'édition, ça marche. En revanche, si vous allez voir votre bibliothécaire et vous lui dites « je veux tous les livres »
avec une couverture rouge.
Alors
là, il va regarder en bizarre.
Disant, mais non, voilà. Et donc, du coup, c'est totalement dépendant de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut lire des livres pour se renseigner sur un sujet, l'organisation, le modèle de données de la bibliothèque, tel qu'on le connaît habituellement, il est bien. Par contre, si on veut récolter des bouquins parce qu'on veut faire une déco, c'est plus adapté.
C'est pas la même orientation, effectivement. Mmh. Et c'est vrai que si on veut creuser, on veut fabriquer quelque chose, on va avoir des orientations, on va chercher les lignes directrices, on va jouer l'architecte. On fait des plans, on imagine comment les organiser. Mais ceci dit, tous les informaticiens ne font pas ça. Mmh. Moi, c'est ça qui me plaît. Hein. Effectivement, j'aime construire. Mais on en connaît d'autres par les associations où on est. Et on peut voir plein d'informaticiens qui ont d'autres approches qui correspondent un peu à leur fonds de commerce, en fait, hein, à leur façon de travailler aussi. Les administrateurs système, on peut voir qu'ils ont une autre façon d'organiser les choses. Ils vont travailler à cette organisation.
Donc, c'est eux qui vont s'assurer que les serveurs, toutes les ressources tournent, sont fiables, sont à jour.
C'est eux qui pestent en permanence. Voilà. Ils sont un peu...
Tout le monde les déteste.
Tout le monde les déteste et ils détestent tout le monde. ils ont tendance à chercher à ce qu'on ne les embête pas. Et donc, si on va aller voir pour la 15e fois, leur demander de restaurer des données qui ont été perdues, de changer un mot de passe, est-ce que tu pourrais me réactiver tel truc ? Ça va aller 2-3 fois, mais au bout d'un moment, il va te regarder bizarre, l'admin 6, il va te hurler dessus. C'est sa manière de se protéger.
Voilà, et lui, en fait, son plaisir, si j'ai bien compris, c'est d'avoir une belle mécanique qui tourne. Donc, il se vante notamment sur leur uptime. L'uptime, c'est depuis combien de temps mon serveur tourne sans qu'on ait besoin de l'arrêter.
Alors ça, c'est les jeunes administrateurs système. Ouais. Ceci dit, je suis sûr que c'est un vice que même les anciens ont conservé. Et puis, l'autre chose qu'ils peuvent aimer à se vanter, c'est combien de serveurs ils peuvent gérer sans avoir à forcément faire beaucoup d'efforts derrière. Parce qu'il y a un côté, je gère un périmètre. Il y a un périmètre de tout ce qui est sous mon emprise. Et ce périmètre-là, s'il est bien géré, il peut grossir sans demander forcément beaucoup plus d'efforts. Et après, on peut voir alors, la perversité des admins, c'est parce qu'ils vont s'amuser à nommer leur machine d'une certaine manière en suivant une culture particulière. Et là, on peut voir leur goût et leur plaisir. S'ils nomment tous leurs serveurs en fonction des noms de leurs animaux préférés quand ils étaient jeunes, ou s'ils les nomment en fonction de déesses et de divinités, c'est pas la même chose.
Ça marche moins bien maintenant parce qu'il y a de plus en plus de serveurs, donc les périmètres s'étendant, c'est
alors,
ça.
Alors, tu sais qu'il y a des gens qui font des listes de tous les noms de serveurs qui peuvent être utilisés. Hein. Les noms des étoiles, les stars de films, les drogues. À l'April, ils ont des noms de serveurs qui suivent des noms de drogues assez connus.
C'est lamentable.
C'est assez lamentable, mais ça amuse à chaque fois qu'il y a des administrateurs système qui rentrent sur le truc et qui découvrent ça. Ils écarquillent les yeux, c'est très fun.
Alors, ce qui est toujours... incompréhensible pour des gens qui connaissent pas le milieu, c'est de voir une engueulade d'informaticiens. C'est-à-dire que comme il y a toute cette construction logique, mentale, de trouver la meilleure solution, le truc optimisé, etc., avec ce truc de « c'est mon jouet en Lego que j'ai fait moi-même, que j'ai conçu, où j'ai assemblé les briques une par une, j'ai tout pensé, etc. » Quand il faut que plusieurs informaticiens se mettent d'accord pour travailler ensemble et trouver une solution, ça peut faire des engueulades parce que tout le monde est arc-bouté sur son idée, parce que c'est pensé, c'est son bébé, c'est sa création. Il y a vraiment ce côté de cette cette mécanique de tout qui s'enchaîne bien, la façon dont on va anticiper les problèmes.
Et puis, il y a tout le côté humain qui ne s'enlève pas. Hein. La mauvaise foi, le fait de vouloir avoir raison, de prouver qu'on est le meilleur, on n'y coupe pas. Comme chez tous les autres humains,
alors, chez informaticiens, c'est quand même assez développé, hein, cette idée d'être le meilleur.
Alors, c'est peut-être aussi, ça, c'est peut-être un résultat du fait qu'il y a beaucoup d'hommes, malheureusement. Et donc, beaucoup d'hommes ensemble, ça fait un peu de testostérone et un peu d'esprit de compétition. Et donc, à un moment donné, on peut les voir qui veulent avoir raison pour avoir raison. Je ne sais pas si tu constates.
Alors, j'ai l'impression aussi que quand il y a des problèmes, alors c'est rageant et compliqué parce que quand tu as un bug ou n'importe quoi, un truc et que tu te retrouves dans une situation inextricable parce que ça pète dans tous les sens, que tu n'as pas de solution simple, etc., avec toute la pression qui peut te tomber dessus, bah, tu es dans une position très inconfortable. Et autant tu as du plaisir à construire un objet que tu vas maîtriser, mais quand ta création commence à t'échapper et que tu ne maîtrises plus rien du tout, là, tu as la punition. Et c'est le sentiment exactement inverse. Et je pense qu'il y a quand même dans ces engueulades ce côté de je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation invivable à cause des mauvais choix de quelqu'un d'autre.
Oui, oui, clairement. Hein. Et puis la responsabilité qu'on porte derrière, si jamais c'est une erreur d'un système qu'on manage et que cette erreur-là, bien, elle remonte à nous, on en est responsable, on est le créateur et donc on est responsable des échecs de nos créations. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez notablement mauvais. Alors après, on pourrait continuer sur une autre approche. Il y a une autre chose qui me paraît intéressante, je trouve, dans le milieu informatique et dans le milieu logiciel libre, hein, globalement, dans le milieu libriste, c'est ce côté, c'est celui qui fait, qui dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut se donner la responsabilité de mettre en place un système, de le manager, de le corriger, eh bien, c'est celui qui va se lancer dedans, qui va prendre la responsabilité de corriger le bug, par exemple, et puis les autres, bah, à un moment donné, si c'est pas eux qui s'en occupent, ils doivent le laisser faire et l'encourager, l'aider dans la mesure du possible. Donc, je sais pas si toi, tu vois beaucoup cela, mais j'ai l'impression que ça marche pas mal, à l'April notamment.
Alors, effectivement, surtout qu'on est dans des milieux bénévoles, hein, je veux dire, je pense que dans n'importe quelle association, tu as toujours des donneurs de leçons, hein, tu sais, des gens qui viennent te voir en disant, faut faire ça. Et je fais, bah, vas-y.
Fait le vas-y que là, c'est toujours assez drôle.
Fais, ouais, non, mais moi, j'ai pas le temps. Par contre, c'est ça que vous devriez faire. Alors, bon, évidemment, c'est facile de bonnes idées. Et il y a ce côté de cette reconnaissance du travail qu'il y a quand même là-dedans. Il y a aussi une valeur qui est importante, je trouve, qui est trouver la solution et se débrouiller. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un souci qui parfois est trop développé chez les informaticiens que je connais, de vouloir trouver eux-mêmes. C'est un peu comme l'énigme, le casse-tête, je veux trouver la solution. Et des fois, tu as des gens qui vont passer énormément de temps à trouver la solution par eux-mêmes, alors qu'ils ont un pote qui connaît la solution et qu'ils auraient fait le truc 10 fois plus vite en lui disant, hey, comment je fais ça?
Ah, mais là, faut pas oublier, hein, la testostérone, ça veut aussi dire ne pas lire le manuel, voilà. Ne pas aller demander où est-ce qu'on est parce qu'on est perdu.
Je pense qu'il y a quand même un plaisir de vaincre le truc, de l'énigme, du casse-tête.
C'est peut-être la culture hacker. Hein. Et ça marche dans plein de cas. Hein. On peut attaquer un système, on peut résoudre un bug, qu'on peut construire une solution. Il y a plein de façons d'aborder ça.
C'est quand même une vertu importante de avoir envie de trouver la solution. Et puis comme tu es quand même dans un environnement purement logique, avoir cet esprit d'aimer trouver la solution de l'énigme, elle est quand même importante.
Je suis sûr que c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres domaines, et par exemple des bricoleurs, hein, ou des gens qui aiment à travailler sur leur moteur, je suis sûr que ça relève du même processus.
Il y a un bouquin que je n'ai pas encore lu entièrement, il faut que je l'achète, qui s'appelle « L'éloge du carburateur », qui est écrit par un ancien universitaire américain qui vient d'un milieu très modeste, qui a fait des études universitaires, qui est devenu universitaire dans les trucs de philosophie, etc., puis qui un jour a tout plaqué pour ouvrir une boutique de réparation de vieilles motos. Et où il dit, en fait, mon travail de réparateur de moto est tout aussi intellectuel que mon travail à l'université, sauf qu'il est beaucoup plus productif, alors que le boulot à l'université était un peu stérile.
C'est terrible et tellement réaliste.
Ce que je trouve intéressant dans l'informatique, et dans l'informatique libre tout particulièrement, c'est la notion de contribution, alors qu'elle n'est pas aussi fréquente qu'on veut bien le croire.
Non, finalement, non.
Mais y a, on peut l'atteindre. Moi, j'ai vécu en contribuant à Wikipédia, qui est cette idée de contribuer à quelque chose qui nous dépasse. Et en fait, on trouve un plaisir incroyable quand on se lance là-dedans, parce que la vie, c'est souvent un concours d'égo. On veut montrer que soit ceci, moi ça. Et on veut être reconnu par les autres. Et en fait, il y a une sorte de libération et de plaisir altruiste qu'on peut découvrir en disant, bah, là, il y a un mec qui a un projet ou une fille, peu importe. Et je vais lui filer la petite contribution qui va l'aider. Alors, il y a un côté libérateur parce que c'est pas très engageant, puisqu'on ne fait que l'aider, ça reste son projet.
Wikipédia, notamment, on peut le faire de manière assez simple. Hein. Corriger une virgule par-ci, par-là, c'est déjà une contribution.
Rien que corriger les fautes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter tous, hein, et qui est un des points vraiment très positifs dans le libre, dont on parle très peu au final.
On pourrait parler de plus que de l'informatique libre. Là, c'est de la culture libre. La culture, c'est de contribuer à quelque chose de commun qui va être ensuite diffusé et partagé entre nous, les humains. Et donc, cette culture libre, eh bien, on peut tous y travailler. C'est ça qui est assez important.
Effectivement, dans les gens qui utilisent des licences libres pour diffuser leur culture, ce sont des gens qui prennent très positivement le fait d'être repris. C'est-à-dire qu'en gros, on leur dit « Ah, quelqu'un a pris ton œuvre et l'a mis là. » Ils sont hyper contents parce que pour eux, c'est une reconnaissance. Et à l'inverse, on a des gens qui disent « Ah, c'est mon œuvre, je vais la protéger de partout et il faut que surtout personne la prenne. »
Je vais mettre des barrières.
Des personnes qui ont des œuvres dans leur tiroir parce que, voilà, il ne faut pas que...
J'ai la BD de Pépère et Carotte devant les yeux. Et là, bah, c'est un exemple contraire. C'est quelqu'un qui diffuse des BD libres. Eh bien, il a été édité et il est édité en ce moment. Et ça marche plutôt bien pour lui. Donc, parce qu'en plus, ce qu'il fait est vraiment génial. Donc, allez jeter un œil, hein, Pépère et une Carotte. Et donc, il faut faire du libre parce que ça se partage mieux, tout simplement.
Tout à fait. Et on peut... personnellement, en tant que contributeur, qu'on soit informaticien ou autre chose, trouver une sorte de plaisir à contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Allez-y, tentez le coup, vous verrez, c'est plutôt sympa.
Sur ce, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Salut tout le monde.